pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Imran et il est midi. Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2022 sous le signe des sciences, nous l'espérons. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler de l'atlas social de Caen. Qu'est-ce qu'un atlas? Pourquoi celui-ci est social? Et qu'est-ce que ces données vont révéler sur l'agglomération de Caen? Pour discuter de cela, notre invité du jour sera le géographe Jean-Marc Fournier, professeur à l'université de Caen-Normandie et membre du laboratoire Espace et Société qui héberge l'Atlas social de Caen. Mais tout de suite, les infos sciences de la semaine. On commence avec un débrief de l'évolution de la cinquième vague de contamination due au Covid-19. Partout dans le monde, les courbes s'affolent en raison du variant Omicron, qui est en France la souche majoritaire depuis le 30 décembre. Cette mutation est bel et bien plus contagieuse, ce qui explique la hausse massive des contaminations partout dans le monde. Malgré tout, Omicron semble moins apte à provoquer des formes graves. En Afrique du Sud, le premier pays à avoir passé la cinquième vague, les hôpitaux n'ont pas été submergés malgré des records de contamination. Mais attention, car la vague du variant Delta n'est pas terminée, ce précédent variant est toujours en circulation, et même s'il est moins contagieux, il est autrement plus dangereux. Pour éviter de saturer ses services de soins, la France mise sur la vaccination et notamment sur la campagne de rappel. La troisième dose est ouverte à tous les adultes dès 3 mois après la deuxième injection. Par ailleurs, le ministère de la Santé allège les règles d'isolement en cas de contamination ou de cas contact afin d'éviter une paralysie de la société. L'isolement est réduit de 10 à 7 jours pour les personnes vaccinées et il n'y a plus de quarantaine pour les cas contacts vaccinés mais un autotest tous les 2 jours. Pour les non-vaccinés, les règles restent similaires au précédent protocole. La nuit a été mouvementée à Caen entre le jeudi 30 et le vendredi 31 décembre. Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus sur une fuite de produits toxiques à Murata, une société fabriquant des composants électroniques en face du CHU. Le produit toxique était un gaz, plus précisément du tétrachlorure de titane, entreposé à l'état liquide dans une bonbonne d'un litre percée. Les pompiers ont procédé à l'évacuation des 14 employés qui se trouvaient sur le site. L'un d'entre eux a été directement exposé à ces émanations, mais son état de santé n'a pas nécessité une évacuation vers le CHU. En quelques heures, la situation a été maîtrisée et le produit chimique a été absorbé avant tout risque de pollution. Néanmoins, après cet accident, le préfet du Calvados souhaite tout de même que des vérifications de sécurité soient effectuées sur tous les sites industriels du même type à travers le département. C'était un très beau cadeau de Noël, un très beau cadeau de Noël pour tous les amoureux de l'espace. Le 25 décembre dernier, 30 ans de travail des scientifiques ont été récompensés. Le télescope James Webb a été lancé dans l'espace. Le plus grand télescope spatial jamais construit est parti de la base de Kourou, en Guyane, au dos d'une fusée Ariane 5, figure de la collaboration des scientifiques européens. L'orbite définitive de James Webb sera à 1,5 million de kilomètres de la Terre, soit 4 fois plus loin que la Lune. L'objectif de cet appareil est de détecter les premières galaxies et trous noirs avec sa technologie infrarouge, mais aussi de tenter de découvrir des signes de vie sur les exoplanètes lointaines. James Webb est une véritable révolution pour les scientifiques car lui seul permettra d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'univers. Vous faites peut-être partie des courageux qui ont réalisé un bain de Noël sur les plages normandes, à Collignon ou à Donville-les-Bains dans la Manche par exemple. Mais cette année, la sortie de l'eau était peut-être simplifiée par une douceur inédite en plein hiver. Et à l'image de ces derniers jours presque printaniers, 2021 se clôture par des records de température partout en France. Par exemple à Nîmes avec 21 degrés enregistrés le 29 décembre et à Marseille avec 20 degrés 7 relevés le 30. 2021 est l'année la plus douce jamais mesurée depuis 1947, a indiqué Météo France. Et ce phénomène est cohérent avec la hausse des températures induite par le réchauffement climatique. Ces vagues de douceur n'ont pas de conséquences sur la santé des hommes et influencent la fonte des neiges et augmentent le risque de crues. Pour la végétation et l'agriculture, c'est un danger, tout comme l'absence de gel qui favorise la prolifération de parasites. Et enfin une découverte, un embryon de dinosaure datant d'il y a au moins 66 millions d'années a été découvert à Gansu en Chine. Nommé Baby Yingling par les chercheurs, ce dinosaure se préparait à sortir de son œuf comme un oiseau. Mais cela n'avait jamais encore été observé chez un dinosaure. Ce fossile d'oviraptorosaure, littéralement lézard voleur d'œufs, a été miraculeusement conservé, enseveli sous une collée de boue. Cette bête à plumes, venant d'Amérique du Nord ou d'Asie, confirme donc les nombreuses similitudes entre les dinosaures et les oiseaux.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
La géographie est une discipline, une science qui a pour objet la description et l'explication de l'aspect actuel, naturel et humain de la surface de la Terre. C'est aussi un ensemble des caractères qui constituent la réalité physique et humaine de telle ou telle région. La géographie, depuis la fin du XXe siècle, prend une nouvelle ampleur grâce au développement des technologies informatiques et numériques. Ces dernières permettent désormais via Internet de visualiser la Terre et ses détails depuis n'importe quel ordinateur. Des images satellites qui étaient réservées autrefois aux militaires et aux renseignements généraux sont accessibles désormais par tous. Mais l'explication des aspects naturels et humains aussi prend une nouvelle ampleur grâce au numérique. Et aujourd'hui, dans C'est pas faux, nous partons à la découverte de l'Atlas social de Caen. Nous accueillons Jean-Marc Fournier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Caen. Vous êtes également membre donc, du laboratoire Espace et Société qui héberge l'Atlas social de Caen. Vos thèmes d'études sont les mobilités géographiques et sociales et vos travaux ont porté notamment sur les transformations sociales et spatiales en Amérique latine. Alors tout d'abord, c'est une question assez simple mais que peut-être certaines personnes se posent. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un atlas ?
Donc un atlas regroupe des cartes à différentes échelles. L'échelle nationale, l'échelle régionale, l'échelle locale et bien entendu pour les atlas mondiaux, l'échelle mondiale. Nous sommes une équipe de recherche en fait très ancienne et le premier atlas fabriqué par les géographes Canet date de 1970. C'est l'atlas de Normandie, donc c'est très ancien. C'est une tradition, je dirais, dans notre équipe de recherche. Et nous avons innové avec une version numérique, donc qui est en ligne depuis maintenant un peu plus d'un an, pour nous adapter à notre époque en simplifiant les cartes pour qu'elles soient accessibles à un plus large public et en ayant des textes les plus courts possibles pour qu'ils soient les plus lus et qu'ils soient les plus simples à lire également.
C'est vrai que quand on pense à un atlas, on imagine l'objet physique, le livre, parfois qu'on a eu à travers nos mains pendant nos études, celui-ci, il est différent sur le plan technologique, mais aussi sur son aspect et son but. Comment vous est venue l'idée de rassembler 50 ans de travaux géographiques sur la ville de Caen ?
Alors, nous sommes partis du constat que nous publions donc des articles scientifiques, nous faisons soutenir des thèses, nous écrivons des ouvrages, des chapitres dans des livres qui sont publiés et que, en fait, tous ces écrits, toute cette masse d'informations, elle reste très peu connue, très méconnue. Ce sont dans les bibliothèques, voilà, où maintenant tout est numérisé, donc il y a toujours un accès numérique à tous ces textes, mais ils étaient éparpillés, peu consultés et écrits aussi, je dirais, avec encore précautions scientifiques, voilà, des détails sur les méthodes qui les rendaient peu accessibles. Donc, on s'est dit que si on voulait faire connaître la géographie aujourd'hui, voilà, 2021-2022, il fallait s'adapter. S'adapter, ça voulait dire écrire différemment et faire des cartes également différemment pour qu'elles montrent également l'évolution de notre monde. Nous sommes dans un monde, une société où les inégalités sociales s'accroissent. On le voit partout et on le voit localement, donc dans l'agglomération cannaise. Donc pour nous, c'était important de montrer avec différents indicateurs comment ces inégalités sociales étaient produites et reproduites et comment la géographie était une discipline adaptée pour mesurer, pour montrer ces inégalités sociales.
Vous avez donc un objectif de vulgarisation et vous revendiquez une accessibilité ouverte. Est-ce que c'est ce qui justifie la présence en ligne de votre atlas ?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de diffuser cette information. Donc, l'université relaie à chaque publication d'un texte avec le réseau Twitter, par exemple. L'université a 11 000 abonnés. C'est ensuite retweeté par notre équipe de recherche. Nous sommes une équipe donc, associée au CNRS et nous regroupons 5 laboratoires donc à Caen, à Rennes, à Angers, à Nantes et au Mans.
Vous avez des partenaires du milieu de la recherche qui vous accompagnent dans ce projet.
Voilà, c'est un projet donc qui est sur les 5 sites. Donc il y a l'Atlas de Nantes qui est également en ligne et qui est sur le même modèle exactement de celui de Caen. Celui du Mans va ouvrir d'ici quelques mois, puis suivront ensuite les atlas de Angers et puis de Rennes. Donc c'est vraiment un projet collectif. Notre unité de recherche sur les 5 sites, c'est 250 chercheurs. Donc c'est un groupe important. Et par exemple, pour l'Atlas de Caen, nous avons plus de 80 auteurs qui donc publient régulièrement.
Alors, il y a une véritable équipe derrière ces publications. Il y a donc les auteurs qui sont des étudiants.
Alors, il y a des textes d'étudiants qui sont en Master 1 et Master 2, par exemple, qui font leur mémoire sur un sujet donné. Et c'est un mémoire qui peut faire 100, 150, jusqu'à 200 pages, si on comprend les annexes, avec des traitements statistiques, des enquêtes originales, des entretiens qualitatifs approfondis. Et donc ça, c'est des mines d'informations, en fait, qui donc sont totalement inconnues. C'est lu par quelques personnes, le jury et quelques personnes, quelques professionnels également quand il s'agit de mémoire de stage professionnel. Et donc c'est vraiment trop dommage que ça reste lu par 5 personnes, alors que ça peut intéresser beaucoup plus de monde. Il s'agit de jouer aussi notre rôle d'universitaire, c'est-à-dire de produire des connaissances qui soient utiles pour la société locale. Ça fait partie de notre travail et il faut donc cet outil, et je crois très adapté. Les atlas, c'est très ancien, c'est quelque chose vraiment qui est lié à la discipline, mais je pense que ça a beaucoup d'avenir et que pour le 21e siècle, ces atlas, elles présentent des synthèses courtes. Et c'est essentiel dans un monde où les informations sont éparpillées, où on a du mal à distinguer le vrai du faux, où il y a les fake news, etc. Donc on essaie de produire donc des connaissances et de les vulgariser, de les valoriser. La connaissance scientifique, des données incontestables, accessibles au plus grand nombre.
Alors quel format va prendre les publications que vous allez faire de l'Atlas social de Caen? Ça va être des articles, des cartes commentées? Comment rendre accessible, comment valoriser justement ces travaux?
Alors il y a toujours une carte, au moins une carte, qui est l'élément central parce que c'est l'originalité de notre discipline par rapport à des travaux d'économistes, d'historiens, de sociologues, de juristes. Notre originalité, c'est de localiser, c'est de cartographier, c'est de montrer les lieux, c'est de pointer les lieux où il se passe des phénomènes. Ça peut être le chômage, ça peut être les revenus, ça peut être les emplois, ça peut être les transports, ça peut être tel ou tel aménagement. Donc nous avons cette obsession, je dirais, de localiser et d'expliquer par ces localisations, comment l'agglomération caennaise fonctionne, comment ce système fonctionne et quelle interprétation, quelle lecture on en fait.
Alors je le disais en introduction, c'est un atlas social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il est social?
Donc l'originalité de notre UMR, c'est d'avoir valorisé en France la géographie sociale depuis le début des années 80. Donc c'est une tradition historique. Géographie sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse, je l'ai dit, aux inégalités sociales. On s'intéresse aux questions sociales. On s'intéresse aussi aux questions qui ne sont pas traitées par d'autres personnes, d'autres organismes en fait qui analysent l'agglomération caennaise. Je pense par exemple à l'agence d'urbanisme qui fait des travaux tout à fait intéressants, qui d'ailleurs participe à certains textes de notre atlas. Mais certains thèmes ne sont pas traités. Je vais prendre quelques exemples. Les prisons. Les prisons, il y a un centre pénitentiaire, une maison d'arrêt à Caen. Il va y avoir une nouvelle prison qui va être construite donc à If, au sud de l'agglomération. Donc c'est un aménagement majeur avec des enjeux économiques, des enjeux importants également. Et nous avons donc publié un texte sur les prisons. Autre exemple, la prostitution, qui est un thème voilà, qui est souvent peu connu, peu de travaux scientifiques sur cette question. On a également des textes sur les SDF, sur les squats, hein, qui ont été créés, puis démontés à Caen, sur les populations LGBT, sur voilà, différentes questions en fait, qu'on a regroupées dans, sous l'intitulé « Les groupes invisibles ».
Alors, dans votre définition d'un atlas, la notion de zone étudiée est essentielle. Ici, la zone, c'est Caen, mais plus précisément, votre champ d'étude ne s'arrête pas strictement à la commune de Caen. Vous avez déjà un peu abordé, par exemple, l'agglomération caennaise. Alors, c'est une zone qui est bien plus vaste que Caen, en réalité.
Ouais. Donc, si on prend en compte donc l'espace bâti continu, on a une vingtaine de communes autour de Caen. Hein. Donc, on a la commune de Caen, qui est la commune centrale. On a autour donc une vingtaine de communes qui sont continues. On a ensuite une zone d'influence qui est importante. Donc, et si on s'intéresse au flux entre l'emploi, toutes les personnes qui se déplacent pour travailler à Caen, pour faire des courses à Caen, pour venir faire leurs études, pour venir pratiquer un sport, pour venir assister à un match de football, pour venir à un concert au Zénith, etc. Eh bien, là, ce n'est pas 30 communes, c'est plus de 200 communes qu'il faut prendre en compte pour expliquer ce qu'on appelle la polarisation de Caen. Donc, certaines personnes, par exemple, qui habitent, je vais prendre des exemples, Falaise ou Bayeux, n'ont pas l'impression d'habiter à Caen. Mais certaines peuvent venir plusieurs fois par semaine. Donc, on est obligé de prendre en compte cet environnement pour expliquer le système caennais.
Il y a des phénomènes qui impliquent nécessairement d'autres zones géographiques.
Alors, après, à une échelle plus fine, donc nous avons l'échelle des quartiers et l'INSEE définit ce qu'il appelle des quartiers IRIS, c'est-à-dire des unités statistiques qui font entre 1800 et 5000 habitants. Et là, on peut avoir un découpage. La commune de Caen, par exemple, est découpée en 46 zones statistiques qui nous permettent d'avoir des données sur l'économie, sur les activités, sur la démographie, la pyramide des âges, mais aussi sur les aides sociales, les aides au logement, les prestations sociales, les minima sociaux, les revenus, etc. Donc, c'est l'échelle la plus fine d'un point de vue statistique. Après, on peut, avec des analyses qualitatives, étudier une rue, par exemple, et de voir sur une rue l'évolution géographique, historique. Et ça peut être tout à fait intéressant de voir comment certaines rues ont évolué à Caen.
Alors, on va continuer la discussion après une petite pause musicale. Voici les Australiens de Parcells avec Famous sur Radio Phoenix.
Do you?
C'était Famous de Parcells sur Radio Phoenix et vous êtes toujours dans C'est pas faux avec le géographe Jean-Marc Fournier. Avant la pause musicale, nous évoquions la zone étudiée dans l'Atlas social de Caen. Nous abordions aussi les thèmes qui font que cet atlas est social. Jean-Marc Fournier, vous dites qu'il faut faire parler les cartes. Comment on décrypte une carte ?
Alors, il y a la phase de description, je dirais, pure et simple. Au nord, voilà, il y a une concentration de tels phénomènes. Au sud, voilà, c'est moins important. À l'est, voilà, au centre. Et puis ensuite, il y a, je dirais, la phase plus analytique. On a une opposition centre-périphérie. On a une opposition est-ouest. On a des flux, voilà, qui viennent du nord-ouest vers le centre. Donc là, on rentre dans l'explication. Et donc, on décrypte donc comment fonctionne ce système. Le système géographique, c'est un système économique, un système également politique, un système social, un système culturel. Et donc, on intègre tous ces éléments. La géographie, c'est une discipline de synthèse. Donc, on intègre une multiplicité d'éléments et on essaie donc d'analyser, de caractériser les lieux et les espaces.
Alors, quelles sont les sources utilisées pour réaliser donc une de vos publications ?
Alors, il y a d'abord les sources publiques, les sources statistiques, donc tout d'abord l'INSEE, mais il y a bien d'autres bases de données qui sont accessibles. Donc, il y a ces traitements statistiques et ensuite, on a nos propres données que l'on fabrique et qui demandent plus de temps. Donc, des enquêtes qui sont faites sur le terrain. Alors, ça suppose d'aller sur place. La géographie, ça ne se fait pas dans les bureaux de l'université. Nous sommes hébergés à la Maison de la Recherche en sciences humaines, donc nous y sommes tous les jours. Mais nous devons absolument aller voir sur place, aller donc dans les quartiers, dans les communes, prendre des photos, regarder ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de terrain. Et c'est ce qui fait que la géographie, c'est très concret. Et on observe des phénomènes. Exemple, la densification. C'est quelque chose qu'on voit à Caen. Un vieux bâtiment, un entrepôt qui ne sert plus, qui est une friche industrielle éventuellement, qui va être remplacé par un groupe de 20 logements, 20 appartements. Donc, c'est cette densification, donc on le connaît dans les statistiques, mais on le voit aussi sur le terrain. Donc, c'est important de compléter avec des analyses sur le terrain. C'est aussi aller parler avec les gens, puisqu'on est dans la géographie sociale. Donc, il faut faire des enquêtes. Par exemple, on a des collègues qui ont fait des enquêtes sur les marchés de Caen pour voir qui achetait, quel type de produit, avec quel budget, des produits locaux, les circuits courts, etc. Et puis, il y a des entretiens qualitatifs, par exemple, c'est de prendre rendez-vous avec un responsable, une entreprise, une association, ou des simples salariés, ou des simples citoyens, et de discuter une heure, deux heures, trois heures, et voir reprendre rendez-vous pour à nouveau discuter pendant plusieurs heures et enregistrer tous ces entretiens et ensuite analyser c'est ce qu'on va appeler les discours, c'est-à-dire comment les gens perçoivent leur espace. C'est ce qu'on appelle l'espace vécu. L'espace vécu, c'est l'espace que les gens pratiquent, hein. C'est la manière dont ils se représentent les choses qui peut être différent de la réalité. Et on essaie aussi de voir donc, le décalage entre cet espace vécu et la réalité et de voir voilà, comment fonctionnent ces décalages et en quoi ça modifie les pratiques des gens au quotidien et dans leur vie.
Toutes ces analyses permettent de publier des cartes. Comment sont traitées ces cartes ? Est-ce qu'il y a une direction artistique et une légende commune ?
Alors, nous avons donc toute une chaîne, en fait. Nous sommes une équipe. Donc, nous avons donc une ingénieure d'études, en fait, qui à la fois s'occupe de la collecte des données, qui réalise ensuite des premières cartographies, un premier niveau de cartographie. Nous avons ensuite un cartographe d'édition, en fait, qui rend les cartes alors plus belles, plus esthétiques, plus simples, plus attractives. Et ensuite, nous avons donc un autre ingénieur qui est à Nantes, en fait, puisque nous travaillons donc en équipe, et qui met en ligne, en fait, ses cartes et leurs commentaires. Nous avons aussi un comité d'évaluation, c'est-à-dire que les textes sont soumis à une évaluation scientifique. Donc, les auteurs proposent des textes et il y a ensuite des allers-retours, comme dans toute revue scientifique, avec des demandes de correction, d'amendement, de correction, de complément, avant d'arriver à la version définitive. Donc, il y a parfois une première version, une deuxième, une troisième, et la bonne, c'est la quatrième qui sera publiée.
Alors, tout à l'heure, vous citiez des exemples qui sont chers à vos thématiques d'études, avec par exemple le groupe des Invisibles. Parmi les thèmes décryptés, il y a la politique, les transports, l'économie, la culture. Le but est de comprendre les bouleversements géographiques en cours. Alors, quelles évolutions géographiques vous avez remarquées à Caen ?
Alors, la question que se posent les élus... ils ne se posent pas la question, ils affirment que Caen est une métropole. Une métropole, c'est-à-dire une ville d'importance qui attire des habitants et qui joue un rôle au moins national, voire international important. Notre point de vue, c'est que Caen est une ville moyenne. Dans les villes françaises, elle est classée au 23e rang. Plus petite que Rouen, par exemple, ou que Rennes. Et que si Caen veut devenir une véritable métropole, c'est-à-dire jouer un rôle en France et en Europe, elle doit donc jouer la complémentarité avec les autres grandes villes normandes, à savoir Rouen et Le Havre. Et qu'une métropole Caen-Rouen-Le Havre pourrait jouer un rôle européen d'importance, mais que Caen toute seule n'a pas la masse critique pour pouvoir le faire. Et ça, alors ça, c'est pas que nous, il y a un collectif de 11 géographes normands, donc avec des géographes de Rouen et des géographes du Havre, qui a publié depuis presque une petite dizaine d'années des travaux là-dessus pour défendre cette idée d'une métropole normande.
Alors on repère aussi, et c'est quelque chose qui a été politiquement pris en compte, que la sphère urbaine de Caen grandit et a tendance à absorber l'économie et le développement des zones périurbaines et rurales du Calvados. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voyez ?
Alors oui, c'est une originalité de Caen en France par rapport, si on les compare à des villes de taille similaire, c'est la périurbanisation. Ça a commencé les premières vagues dans les années 70 et surtout 80-90 où le modèle c'était habiter à la campagne et puis travailler et avoir des activités, des loisirs à la ville. Donc c'est un modèle en fait qui a plu à beaucoup de personnes et ce modèle il a été possible parce qu'il y a dans la région tout un maillage de petites villes et de villes moyennes qui sont très bien reliées par des routes et des autoroutes. Donc, on a plusieurs vagues de périurbanisation, mais cette périurbanisation, elle est très importante. De ce fait, cette périurbanisation, elle présente des inconvénients, à savoir la saturation du périphérique et les problèmes de transport, puisque des personnes qui habitent 20, 30 kilomètres, voire plus, se rendent régulièrement à Caen. Et donc, utilisent la voiture, et ça crée donc des embouteillages. Donc, cette périurbanisation, qui a été longtemps un gros avantage, aujourd'hui présente des inconvénients.
Alors, à travers vos cartes et vos études, vous tirez un certain nombre d'enseignements qui sont assez peu médiatisés et de façon globale, les mutations sociales et géographiques ne font pas partie des grandes préoccupations dans l'opinion. Donc à part l'abandon qu'on peut repérer de certains milieux ruraux, est-ce que vous pensez que les politiques devraient se saisir de ces enjeux ?
Oui, bien sûr. En fait, si on veut mener les bonnes politiques, il faut avoir le plus de connaissances possibles et des connaissances les plus pertinentes et les plus justes. Donc, quand s'est doté d'une agence d'urbanisme très tard, il y a peut-être une quinzaine d'années, alors que Rouen ou Rennes ont des agences d'urbanisme qui sont beaucoup plus anciennes, qui ont une trentaine d'années. Et ça, c'est aussi le signe que Caen est resté longtemps voilà, une ville où on n'a pas pensé avec une agence d'urbanisme des solutions d'aménagement en prenant des exemples qui viennent d'ailleurs, bien entendu, mais surtout en les adaptant localement. Parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de modèle qui viendrait voilà, d'urbanisme qui serait applicable de manière simple. Sur Caen, donc il faut forcément adapter localement. Donc, je dirais, la gouvernance urbaine, elle est récente à Caen, c'est par rapport à d'autres villes. Et c'est très important, en fait, voilà, pour l'avenir, parce qu'une ville, ça se construit sur le long terme, et certains projets, il faut 10 ans ou 15 ans pour les réaliser, ce qui est le cas, par exemple, voilà, d'un tramway. On a commencé à parler du tramway de Caen en 1988 et il a été inauguré en 2002. Voilà, donc il y a des projets qui doivent être anticipés sur plusieurs dizaines d'années. Donc il faut toujours faire ce qu'on appelle la prospective en aménagement du territoire, c'est-à-dire se projeter, imaginer des scénarios et puis avoir le maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions.
Eh bien, merci Jean-Marc Fournier d'être venu nous parler de l'Atlas social de Caen. On peut retrouver vos travaux de recherche sur le site internet atlas-social-2-caen.fr. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix.
Merci à vous.
Bonne journée à vous et voici l'agenda scientifique de la semaine. Du lundi 10 janvier et jusqu'au 29 janvier, l'équipe d'animation du Jardin des Plantes et Botanique propose une animation consacrée à l'analyse et à la connaissance du sol. Comment analyser et connaître son sol pour ensuite choisir les végétaux les mieux adaptés? Venez découvrir différentes techniques pour mieux le comprendre, ainsi que les amendements possibles, le fumier, le terreau et le sable. Le nombre de places par atelier est limité, adressez-vous pour les inscriptions au 02 31 30 48 38. Passez autrement par mail à l'adresse suivante, conseillerhorticole, donc au pluriel, @caen.fr. Les poches de sang manquent en ce début d'année 2022. Du 3 au 15 janvier, l'EFS lance la 5e saison de l'opération #MissingType. Tentez d'imaginer une vie sans les lettres A, B et O qui représentent les groupes sanguins des stocks en baisse. Essayez de parler ou chanter sans les lettres A, B et O. L'EFS vous propose de capter n'importe quel instant de votre vie au quotidien sans ces lettres afin de les partager auprès de votre communauté. Une façon originale d'attirer l'attention sur la nécessaire mobilisation régulière des donneurs de sang afin de toujours pouvoir répondre aux besoins des malades. #MissingType donc et le site dondesang.efs.santé.fr. Et en parlant de défis, nous sommes en janvier et comme chaque année désormais revient la campagne du Dry January. Lancée en 2013 par l'organisation Alcohol Change UK, c'est aujourd'hui un mouvement international. Chaque année pendant un mois, des millions de personnes font une pause dans leur consommation d'alcool. Les règles sont simples. Ne pas boire d'alcool à partir de votre heure de lever le 1er janvier et jusqu'à la fin du mois, et c'est tout. Il n'y a pas de bon point si on ne boit pas, ni de mauvais si on boit. C'est à chacun de faire un choix personnel avec ses propres objectifs et d'en constater les effets. Si vous souhaitez relever le défi, rendez-vous sur dryjanuary.fr.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur l'Atlas social de Caen, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les émissions précédentes en podcast sur phoenix.fm. À 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Violette. Permettez-moi de vous souhaiter encore une belle année 2022 sur Radio Phoenix.